Spargiassi, qui vient de recevoir, qui est désormais titulaire de la chaire sur la pollution de l'air, les changements climatiques, la santé, et ceci en partenariat avec l'Institut de la santé publique du Québec, le département de santé publique de Montréal, l'Université de Montréal, et je suppose des collaborations avec l'UQAM, puisqu'elle a des liens privilégiés aussi avec nous. Pas obligé d'insister là-dessus. Donc, à toi, et peut-être que tu peux présenter en quelques secondes ton parcours.
Bien, en fait, je pense que je vais plutôt rentrer directement dans la conférence parce que je comprends que le temps est restreint. Je vais vous présenter deux projets, deux études qui ont été effectuées pour supporter la prise de décision à Montréal, en fait, pour orienter les interventions et les mesures d'adaptation au changement climatique. Je change de diapositive, donc je comprends que je devrais vous le dire à toutes les fois.
Je crois pas. Je crois que c'est simultané.
Donc, comme je disais, je vais vous présenter deux études. La première, c'est une étude, en fait, on a produit des données probantes quant à la variation géographique des risques de mortalité associés à la température. Et la deuxième étude dont je vais vous parler, c'est une approche qu'on a mis en place pour localiser les individus les plus exposés à la chaleur à Montréal. Donc, les études épidémiologiques effectuées chez les populations urbaines ont montré que la mortalité journalière augmente avec l'augmentation de la température. En fait, au-delà d'un certain seuil spécifique là, aux différentes villes où les études sont faites. En fait, on parle ici des analyses de séries chronologiques où on a mis en lien les températures journalières avec les mortalités journalières. Donc, on comprend que plus les températures sont élevées, plus il y a de morts, par exemple, dans une ville donnée. Et ce, selon un seuil précis pour chacune des... Il n'y a pas juste ce genre d'études-là qui nous ont amenés à identifier que les températures importantes dans les villes avaient des impacts sur nos populations. En fait, il y a effectivement les études effectuées sur des journées précises, sur des périodes précises comme... si on parle des impacts importants qui ont été documentés pour la période de 2003 à Paris, là, lors de l'épisode de chaleur du mois d'août. La diapositive que je présente, là, je suis pas certaine que vous êtes au même endroit que moi, c'est une diapositive qui montre les nombres de morts observés par jour et on observe les courbes qui représentent les températures journalières. Alors, on voit que normalement, on a environ une cinquantaine de morts par jour à Paris. Par contre, pour la période d'environ 12-13 août 2003, on est monté jusqu'à près de 300 morts là, par jour. Donc, ce sont des excès importants qui ont été notés. Et les températures moyennes journalières sont environ à Paris autour de 20-25 degrés. Par contre, là, pour cet épisode-là, on atteignait là, des 33 degrés, comme vous le savez. Donc, les températures ambiantes...
Juste un tout petit mot, Audrey. On n'a aucun problème. Les diapos suivent automatiquement.
Ah, OK, excellent. Donc, les températures ambiantes peuvent varier considérablement au sein des villes. On l'a mentionné dans la présentation précédente. Et évidemment, entre les villes et les régions, par contre, les variations intra-villes, intra-urbaines, ont été peu étudiées. On connaît mal comment les risques de mortalité en période de chaleur varient au sein d'une ville. Est-ce qu'ils sont plus élevés dans certains secteurs d'une ville? Doit-on donc orienter nos interventions de santé publique, par exemple, ou nos mesures d'adaptation au changement climatique à la chaleur dans certains secteurs des villes? Donc, la première étude que je vous présente, c'est effectivement une étude qui visait à produire des données probantes, justement, pour orienter l'intervention. Donc, pour documenter, justement, la variation géographique des risques de mortalité. Donc, malgré que la température ambiante n'est pas uniforme au sein des villes, il y a peu d'études, comme je le mentionnais, peu d'études santé, qui ont considéré cette hétérogénéité-là. Donc, les études de séries chronologiques, par exemple, qui mettaient en relation les températures journalières avec la mortalité journalière, utilisaient uniquement une station météorologique, par exemple, d'un aéroport. À Montréal, on utilise pour ces analyses-là l'aéroport de Dorval, les températures mesurées à Dorval. Et est-ce qu'on peut penser que cette température-là mesurée à Dorval représente bien l'exposition des individus d'une ville? Est-ce que des gens qui sont exposés à des des températures plus élevées? Et est-ce que ces gens-là sont donc plus à risque de mourir en période de chaleur? Donc, est-ce que les gens localisés dans les secteurs chauds, je vais les appeler les micro-îlots de chaleur urbains, parce qu'un îlot de chaleur, normalement, c'est la ville comparativement à sa région périurbaine. Donc, je vais parler de micro-îlots. Alors, est-ce que les gens localisés dans les micro-îlots de chaleur sont donc, plus exposés à des températures plus élevées, sont donc plus à risque de mourir lors des journées chaudes d'un été? C'était ce qu'on a tenté de démontrer, là. Donc, je vais aller rapidement dans les méthodes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données de mortalité journalière de Montréal pour les années 90 à 2003. Les mortalités pour les gens de plus de 14 ans. On a utilisé comme mesure d'exposition à la température, donc les mesures à l'aéroport de Dorval. Mais on a essayé de préciser l'exposition à la température en utilisant des images satellitaires de Landsat 5 et 7. On avait deux images satellitaires qui nous ont permis d'estimer les températures de surface aux endroits où les individus étaient localisés le moment où ils sont morts. Là. En fait, on parle de morts, on parle de bases de données qu'on a liées à ces données de température de surface-là. Les analyses statistiques, et là, je vais prendre votre main pour vous faire comprendre ce qu'on a fait, parce que j'imagine que les gens ne sont pas nécessairement familiers avec ce type d'approche-là. Donc, je vais y arriver prochainement, là, mais je vais juste vous donner rapidement quel genre de méthode on a utilisé. On a regardé la relation entre la température et la mortalité en utilisant un design qu'on appelle case crossover. Et on a donc stratifié les relations température-mortalité pour les températures de surface au lieu de décès. Donc, on regarde la relation entre la température et la mortalité chez des groupes qui étaient exposés à des températures élevées à l'endroit où ils étaient au moment de leur mort et pour des gens qui étaient localisés à des endroits qui étaient plus frais au moment de leur mort pour voir si les risques de mortalité étaient plus importants pour les gens localisés dans des micro-îlots de chaleur. On a utilisé des splines cubiques pour étudier la non-linéarité, là, c'est pas nécessairement important. Ici, c'est un exemple d'estimation de température au sol, parce qu'en fait, les bandes spectrales, les images thermiques qu'on a utilisées permettent donc d'estimer les températures au sol, le canal infrarouge nous permet d'estimer ça. Alors là, vous voyez certains secteurs qui sont rouges et qui sont donc plus chauds et certains secteurs qui sont plus frais là, dans la ville. Et donc, on a utilisé une image comme ça pour stratifier nos bases de données et pour donc étudier les risques de mortalité en période de chaleur dans différents secteurs de la ville. Alors, je vous ai dit qu'on avait utilisé un design épidémiologique case crossover. Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est le même principe qu'une étude de cas. La mort de cet individu-là, c'était l'exposition la journée d'avant. Donc là, c'était la journée d'avant, par exemple, l'individu est exposé à une température de 30 degrés. Et on compare cette exposition-là aux expositions à la température attendue ou normale pendant ce mois-là pour cet individu-là. Et donc là, on considérait que la période à risque était le lundi, si la personne était morte le mardi. Alors, on compare la température de tous les autres lundis du même mois pour cet individu-là, la température du lundi, qui était la température où la personne était à risque. Et on fait ça pour tous les individus. On a donc des strates dans notre base de données. Et donc, on compare l'exposition au moment à risque avec l'exposition normale des individus pour voir si les gens ont plus de chances de mourir quand la température est élevée. Ce sont des approches épidémiologiques là, qui sont utilisées pour contrôler pour différents facteurs confondants dans les analyses statistiques. Alors là, ici, juste de façon descriptive, on a nos données, on a les mortalités totales pour notre période. On avait plus de 48 000 morts dans notre base de données. Surtout des personnes âgées, une bonne proportion avait plus que 65 ans. Une bonne proportion aussi était mort de maladies cardio-respiratoires. Et pour les températures moyennes ambiantes au moment du décès, les journées moyennes étaient d'environ 20 degrés. Pour la période de l'été, j'ai oublié de le mentionner, on a utilisé uniquement les mois de juin, juillet et août. Et on avait quand même des moyennes journalières qui allaient jusqu'à 29 degrés. Donc, une journée où en moyenne, les 24 heures d'une journée sont à 29 degrés, c'est quand même une journée très chaude où on a eu des heures qui étaient très élevées, là. Par contre, si vous regardez les mortalités totales, on en avait 97 au plus une journée, en moyenne environ cinquantaine à Montréal, c'est très différent là, du 300 qui a été observé à Paris là, pendant l'épisode de 2003, où ils avaient eux aussi en moyenne environ 50 morts par jour. Bon, ici, on présente les températures maximales, les niveaux d'ozone aussi, qui ont été utilisés dans nos analyses. Maintenant, pour les températures de surface qui ont été utilisées pour séparer nos groupes d'individus là, du territoire montréalais, on a quand même une bonne variation des températures de surface, qu'elle est de 12 à 32 degrés ou de 20 à 39 là, selon l'image qu'on avait utilisée. Donc ça, c'est juste une description des données qu'on a utilisées. Alors, ce qu'on a observé, en fait, c'est que plus les températures... Excusez, j'ai sauté une diapositive. Alors, c'est relativement typique des relations qui sont observées avec la température. Plus la température augmente, plus il y a des morts dans une région donnée. Donc, et ce sont des relations qu'on appelle non linéaires. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand on passe de 22 à 20 degrés, quand on compare le nombre de morts à 22 degrés comparativement à 20 degrés, on a 4 % plus de morts à 22 qu'à 20 degrés. Pour une augmentation de 2 degrés similaire, on augmente tranquillement le risque de mortalité. Donc, c'est à 6 % plus quand on compare de 26 à 24. C'est que ce n'est pas tout le temps 4 % parce que ce n'est pas linéaire. Ça ici, ce sont des odd ratios, des estimations. En fait, la façon de les interpréter, c'est que si c'est plus élevé que 1, ça signifie qu'il y a une relation positive entre la température et la mortalité dans ce cas-ci. Et si l'intervalle de confiance est plus proche de 1, ça veut dire que c'est statistiquement significatif. Donc ça ici, c'est la température le jour de la mort, la température le jour avant la mort, c'est le genre d'analyses qui sont faites pour étudier la relation entre la température et la mortalité. Maintenant, ce qui est original dans notre étude, parce que ça, c'est des choses qui sont bien connues, ce qui est original, c'est qu'on a regardé si ces risques de mortalité-là étaient identiques pour les gens qui habitaient dans les secteurs chauds et les gens qui habitaient dans les secteurs frais. Alors là, ici, c'est le tableau que je vous ai présenté, il est schématisé ici sur une figure. Alors, ce qu'on voit ici, c'est l'augmentation de la mortalité ou des risques de mortalité avec la température. Et on voit que les gens qui habitaient dans les secteurs chauds, les gens qui étaient localisés dans les secteurs chauds au moment de leur mort, avaient des risques de mortalité plus élevés que les gens qui habitaient ou qui étaient localisés dans les secteurs plus frais. Donc, ce que ça montre, c'est que, évidemment, comme on le sait bien, plus il fait chaud, plus il y a de morts. Mais plus il fait chaud et qu'on est localisé dans un secteur qui est très chaud, bien, plus nos risques de mortalité sont importants. Alors là, cette étude-là, c'est une étude qui avait été effectuée, comme j'ai dit, pour produire des données probantes, pour orienter les interventions. Donc, nos résultats suggèrent que ceux qui sont localisés dans des îlots, micro-îlots de chaleur, au moment de leur mort, et donc possiblement exposés à des températures plus élevées, sont donc plus à risque de mourir lors des journées chaudes de l'été. Donc, ce sont des données probantes qui permettent de supporter, par exemple, les activités de verdissement, là, si on veut, là, à Montréal, par exemple. Maintenant, il est clair, par contre, que l'exposition aux températures dépend pas uniquement de l'endroit où on est localisé à un moment donné, mais si moi j'habite dans un bâtiment élevé, que j'habite au dernier étage, que j'ai pas d'air climatisé, par exemple, ma température va être aussi beaucoup plus élevée. Donc, l'exposition aux températures dépend de d'autres facteurs que l'endroit où on se trouve et que la température ambiante à un moment donné. Et l'étage de la résidence et la présence d'air climatisé sont d'autres facteurs qui vont influencer l'exposition des individus et donc les risques de mortalité, et doivent donc être considérés dans nos approches d'intervention puis d'adaptation au changement climatique. Donc, la prochaine étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui a été effectuée pour justement estimer l'exposition des populations urbaines, pour orienter, c'est comme nos interventions, puis nos mesures d'adaptation au changement climatique, en considérant justement ces autres facteurs-là. Donc, ici, en guise d'introduction, ce qui est présenté ici, c'est la température dans 75 logis de Montréal à 15 heures l'après-midi. Donc, on avait mesuré avec des petits loggers la température dans des logements de Montréal. Puis, ce qu'on voit en bleu ici, c'est la température à Dorval. Donc, si vous suivez là, la courbe, vous voyez qu'effectivement, plus il fait chaud à Dorval, plus il fait chaud dans nos logements. Par contre, il y a une variation très importante au sein de nos logements. Donc, la moyenne de nos logements suit plus ou moins la courbe de Dorval. Par contre, il y a une variation très importante au sein des logis qui est effectivement associée aux températures à l'endroit où se trouvent les logis, mais aussi à l'étage du logis, au type de bâtiment, par exemple, le nombre de fenêtres des bâtiments, l'exposition au soleil, puis aussi aux habitudes des résidents qui vont ouvrir les fenêtres, qui ne les ouvriront pas, etc. Donc, ces facteurs-là doivent donc être considérés dans nos mesures d'adaptation au changement climatique. On ne doit pas uniquement considérer les températures au sol et tenter de verdir, mais où doit-on verdir? Quel genre d'approche doit-on considérer pour justement orienter nos interventions? Donc, ce qu'on a fait, c'est un petit modèle statistique pour prédire nos températures dans nos logements. Donc, si on veut, en rouge, ce sont les points de mesure dans nos logements. Et comment on peut prédire ces points-là à partir de différents prédicteurs? On peut utiliser la température ambiante à Dorval pour prédire nos températures dans nos logis. On peut utiliser aussi les températures de surface qui proviennent de nos images satellites pour prédire justement nos températures intérieures. Et on peut utiliser aussi les types, les caractéristiques des bâtiments, comme le nombre de logements, par exemple, qu'on va retrouver dans nos logis. Donc, on a tout simplement utilisé un modèle de régression pour prédire les températures dans les logis qu'on avait mesurés, en considérant les températures de surface, les types de bâtiments, l'étage et la température ambiante au moment où on prenait la mesure. Maintenant, bon, ça ici, c'est encore une fois un des prédicteurs, là, qui est la température de surface, plus les températures ambiantes et les caractéristiques des logis. Bon, les logis dans lesquels on est allé mesurer nos températures, on avait tenté de maximiser les variations de température du territoire. Donc, quand on avait fait les sélections de nos logis pour aller mesurer les températures, on avait choisi des logis qui étaient localisés dans des secteurs très minéralisés ou dans d'autres qui étaient localisés dans des secteurs très végétalisés ou d'autres qui étaient ni végétalisés ni minéralisés. Et on tentait de considérer des bâtiments qui étaient petits ou des bâtiments qui étaient gros pour pouvoir avoir un éventail de caractéristiques puis tenter de maximiser la variation des températures. Donc, comme et mesurer la température intérieure de façon simultanée avec des petits appareils, des petits loggers, des petits thermomètres dans tous nos logis là, pendant une période d'un mois ou 10 minutes. Donc, le modèle, je vous l'ai présenté succinctement, c'est un modèle statistique de régression, bien, un peu particulier qu'on appelle un modèle GEE, qui permet de considérer l'autocorrélation dans les mesures de température. Donc, juste rapidement, je répète à nouveau, les déterminants ou les prédicteurs de nos températures des logis étaient la température à l'aéroport international de Dorval. On a utilisé la température au moment de la prise de mesure dans nos logis, mais aussi la moyenne des 24 heures, parce qu'on sait que la température va s'accumuler dans un logement. Donc, ça fait plusieurs heures qu'il fait chaud. Il va faire encore plus chaud chez moi. Dans les types de bâtiments, comme j'ai dit, on utilisait en fait une variable binaire, les petits et les gros logis, les logis localisés dans les petits et les gros bâtiments, et les températures de surface, on a utilisé le canal thermique pour estimer les températures de surface. Bon, on avait des approches de validation, on a étudié la validité de notre modèle à partir d'approches bootstrap. Mais je ne vais pas présenter ça. Donc, ici, je présente donc les résultats du modèle. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que si on utilise uniquement la température ambiante à Dorval lors de la prise de données, on explique 22 % de la variabilité des températures intérieures. Si on utilise les 24 heures, les températures à Dorval des 24 heures avant la prise de données dans nos logis, on augmente notre prédiction à 40 % et on est capable d'augmenter cette prédiction-là à environ 55 % si on insère dans notre modèle les types de bâtiments, c'est-à-dire si nos logis étaient dans des petits ou dans des gros bâtiments, et si on insère aussi la température de surface à l'endroit du logement. Donc, on se trouve à avoir 54 % de la variabilité qui est expliquée en utilisant ces prédicteurs-là. Donc, on réussit à mieux expliquer, à mieux prédire les températures des individus d'une grande population en utilisant non seulement les températures ambiantes à l'aéroport, mais en utilisant aussi les caractéristiques du milieu, c'est-à-dire les types de logis, puis les températures de surface. Les prédicteurs qu'on a utilisés sont des prédicteurs qui sont disponibles pour l'ensemble du territoire montréalais. Et ce que ça nous permet, c'est ça nous permet de prédire maintenant à grande échelle les températures des logis d'un territoire donné. Et c'est en fait ce que je présente ici. C'est que à partir de nos prédicteurs et de notre équation, on est capable maintenant de dire si demain il fait 30 degrés, quelle sera la température dans les logis de Montréal. Donc, c'est ce que vous avez ici sur cette image-là. Vous avez des petits bâtiments, des gros bâtiments qui sont localisés à proximité de parcs ou non. Pour vous donner un exemple, vous avez ici les petits bâtiments sont, si je ne me trompe pas, les gros bâtiments sont en mauve et les petits bâtiments, vous avez les petits bâtiments qui sont en bleu ou en orange et sinon vous avez du mauve et du rouge pour les gros bâtiments. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a par exemple des bâtiments ici qui sont localisés près d'un parc en haut, mais qui semble être rouge quand même. Là, c'est une classification des températures. Et au contraire, on a d'autres bâtiments qui vont être très près d'un parc et pourtant qui sont frais. Et donc, ça nous permet, à partir de l'équation, de pouvoir localiser les bâtiments qui sont problématiques et où les températures seraient plus chaudes pour justement orienter peut-être nos approches d'intervention en période de chaleur ou aussi nos approches de verdissement, par exemple. Donc, à grande échelle, on a plus ou moins la même affaire ici pour Montréal. Donc, l'équation le modèle qui a été développé et qui est basé sur des prédicteurs disponibles à l'échelle de l'île de Montréal nous permet donc de spatialiser les risques et donc de localiser les secteurs où on devrait justement intervenir davantage. Donc, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qui nous permet de raffiner l'estimation de l'exposition à la chaleur. Et donc, en considérant la variation intra-urbaine de l'exposition des populations, au-delà donc de l'utilisation uniquement des températures à l'aéroport, là, l'approche qui est utilisée normalement. Maintenant, ça ajoute une dimension temporelle aux approches classiques utilisées pour estimer l'exposition des populations, parce que là, on n'utilise pas juste une image satellite pour prédire les endroits où il fait chaud, mais on utilise en plus les températures au moment, à un moment donné dans notre modèle. Et donc, c'est un modèle qui est spatio et temporel. Et ça, comme je le mentionnais, c'est un modèle qui nous permet d'orienter les interventions de santé publique en période de chaleur. Donc, on devrait peut-être donner, c'est comme avoir plus de services dans certains secteurs à certains moments, mais ça nous permet aussi d'orienter les stratégies de développement urbain et les politiques relatives à l'habitation. Donc, pour conclure, on comprend que c'est important de considérer les températures de surface et la variation donc géographique des températures dans un milieu donné, mais il ne faut pas oublier non plus les caractéristiques liées au bâtiment qui, elles aussi, vont aussi influencer l'exposition des individus et qui devraient donc être utilisées pour orienter nos interventions et nos approches d'adaptation au changement climatique.